un terrien et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue sur Radio Sainte-Afrique pour l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. La saison 3 a débuté voilà 2 mois, avec une petite balade sur la terre du milieu et les chemins des 7 royaumes. Changement de décor aujourd'hui. On oublie les quêtes héroïques et on plonge dans le gore et l'humour, le foot et les zombies, avec une émission spéciale « Goal of the Dead ». Les auditeurs les plus fidèles et les plus perspicaces m'objecteront peut-être que j'ai déjà consacré une émission aux zombies. C'est effectivement tout à fait le cas. C'était en décembre 2012 et j'avais évoqué, évidemment, la nuit des morts vivants de Romero, ainsi que 28 jours plus tard de Danny Boyle, The Walking Dead de Robert Kirkman et Planète Terror de Robert Rodriguez. J'avais même déjà montré que zombies et humour pouvaient faire bon ménage avec l'incontournable Shaun of the Dead de Simon Pegg et le sympathique roman de Jess Peterson, Zombie Therapy. Au passage, si vous n'avez pas écouté cette émission, elle est toujours disponible en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique. Mais pourquoi, me direz-vous, revenir aux zombies quand tant d'autres thèmes de la science-fiction et du fantastique restent encore à traiter? Et je réponds, les autres thèmes attendront. Dès le moment où j'ai vu la bande-annonce de Goal of the Dead, il y a plusieurs mois de cela, j'ai su que j'y consacrerai une émission tout entière. Et lorsque le film est enfin sorti et que j'ai pu le voir, cela a confirmé mes soupçons déjà très ancrés. J'étais face à une œuvre culte ou en passe de l'être et je ne pouvais tout simplement pas passer à côté. Je vais donc m'employer, pendant l'heure qui vient, à vous expliquer ce que ce film a de si fantastique à mes yeux. Allez, voilà ce qui va se passer. On va commencer par un petit résumé du scénario. On évoquera l'originalité, ou plutôt les originalités du film, puis nous enchaînerons avec quelques interviews. La préparation de cette émission a en effet été pour moi l'occasion de belles rencontres, même si elles sont restées téléphoniques, avec plusieurs membres de l'équipe de Goal of the Dead, qui ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à mes questions, même les plus bizarres. Vous en aurez un petit aperçu. Nous continuerons avec l'interview du fan, dans lequel nous recevrons ce mois-ci Karine, qui nous racontera comment elle qui n'aime ni le foot ni les zombies a pourtant adoré Goal of the Dead. Et nous terminerons cette émission par les traditionnels conseils. Vous qui avez toujours voulu savoir quelle attitude adopter face à une horde de morts-vivants enragés et affamés, restez sur Radio Sainte-Afrique et profitez bien de cette heure fantastique. Allez, fini l'échauffement, on passe aux choses sérieuses et on s'écoute la bande-annonce du film.
32e de finale face aux amateurs de Cap Long, ça devrait pas poser trop de problèmes.
Il y a quand même un lourd passé. Il y a 17 ans, les deux clubs s'étaient rencontrés. Et qui était l'attaquant vedette de Cap Long à l'époque? Samuel Laurie.
Vendu! Regarde
la gueule à Laurie, c'est quoi là?
Comme ça, tiens, Laurie.
Non, mais vous avez un problème dans ce village.
Bon, les gars, on se recentre un peu là. En face, c'est le match de leur vie. Donc, je veux de l'action.
Au courant que tu repartiras pas d'ici sur tes deux jambes.
Bien pensé, Corrie.
Il se passe quelque chose de pas normal. Il y a un genre d'émeute. Ils brûlent les voitures, j'ai l'impression.
Ouais, bah vu l'arbitrage, fallait s'y attendre. Hein.
Putain, mais coche là, mais qu'est-ce qu'ils veulent? On leur a rien fait, nous, c'est juste du foot! C'est pas perso!
Oh
Oh putain, c'est la merde. Go, 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 go.
Au secours !
C'est maintenant que tout se joue. Tous nos efforts, c'est aujourd'hui qu'ils vont payer. Pour récupérer du terrain. Centimètre après centimètre. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Ensemble, on est tout. Seul, on n'est rien.
Oh merde, putain, je suis chier.
C'est ça, le foot. C'est la vie. C'est l'union. C'est le collectif.
Bon, vous avez compris, il est question de foot et de zombies. Pour faire un peu plus précis, l'histoire du film nous présente une équipe de Ligue 1 venue de Paris, se rendant à un match amical en province, plus exactement à Caplongue, une petite ville triste ou nette dont Samuel Lory, l'un des joueurs incarné par Alban Lenoir, est originaire. Il n'en est pas parti en très bons termes avec sa famille ou ses amis, et ce retour aux sources ne lui est pas très agréable. D'autant qu'en fin de carrière, il a un peu de mal à encaisser la gloire des nouvelles stars de l'équipe et sa prochaine mise en retraite. Et la soudaine épidémie de zombies, qui transforme ce match amical en émeute gore, ne va pas vraiment lui faire apprécier davantage le coin. Quoique, la première originalité du film, c'est son scénario. On n'est pas tout à fait dans du film d'horreur, et c'est quand même un peu sanglant sur les bords pour une comédie. Le thème du foot sert surtout de prétexte à une mise en situation. Les joueurs de Ligue 1 face à une équipe de quasi-amateurs, les Parisiens face aux provinciaux, ce qui n'empêche pas de pointer du doigt certaines dérives du foot et certains préjugés. Les stéréotypes sont utilisés avec un humour qui ne prend pas de gants. L'émotion n'est pas oubliée non plus, mais elle donne surtout l'occasion de dialogues francs et sans embâge. La confrontation avec les enragés permet tout à la fois des répliques bien senties, des scènes gore comme je les aime, dans lesquelles du vomi de zombies accentue le côté dégueu décalé, et la mise en place de stratégies de survie. Ce mélange des genres est un vrai petit délice. L'histoire d'amour qui se noue petit à petit entre Samuel Lory et Solène, la journaliste, est à l'image de ce mix décalé.
Hey, je suis vraiment désolé pour tout ça. Car...
C'est bon, c'est pas grave, c'est du passé. T'as pas une clope ?
Non, je fume pas.
Évidemment, tu prends soin de ton petit corps de rêve.
Bon, tu prends pour un grenade en fait.
Tu serais pas un chouïa égocentrique ? Moi, ma vie, mes problèmes...
Mais pas du tout. Attends, moi, je kiffe hein, écouter les problèmes des gens. Hein. Eh, mais je suis grave à l'écoute. Tiens, bah vas-y.
Je fais la potiche à la télé, déguisée en sapin de Noël devant la caméra, alors que mon rêve, c'était le grand reportage, les guerres, les famines...
Ouais, moi, alors, je suis en fin de carrière. Je pense sur mon âge et je sais même pas où je serai dans 6 mois.
En plus, on me confond toujours avec l'autre conne de la météo. C'est un vrai boudin.
Je dois refaire des pubs pour la lessive. Ou pire, du caritatif.
Je crois que j'ai un petit problème avec l'alcool.
Et moi, je me retrouve avec une gamine de 17 ans sur les bras en pleine crise d'ado. Oh,
ce que j'apprécie dans ces personnages, c'est l'absence de mièvrerie ou de faux-semblants, qui sont souvent l'apanage des films apocalyptiques. Samuel Lory est peut-être un grand costaud et un sacré beau gosse. La scène du vestiaire laisse d'ailleurs un charmant aperçu de son anatomie. Mais ce n'est pas un héros. Pas dans le sens manichéen du terme en tout cas. Et Solène n'a rien de la demoiselle en détresse à secourir. La jeune Cléo en est aussi très éloignée. Et lorsqu'il s'agit de faire diversion pour permettre à ses compagnons d'échapper aux zombies, elle sait prendre les choses en main avec un mélange de courage, d'insouciance et de grossièreté.
Non,
là,
ici.
Ici, par ici.
Caplongue et enculé. Caplongue et maniqué ta mère.
Ouais, ta mère, ta soeur, ton frère et puis ton père.
Une gueule de cul,
gueule de cul.
À ce scénario original s'ajoute le découpage du film en deux mi-temps. Plutôt que de faire un long métrage classique, les créateurs découpent l'œuvre en deux parties, à l'image d'un match de foot, ce qui est, il faut bien le dire, tout à fait cohérent. La première mi-temps, qui raconte l'arrivée de l'équipe parisienne à Caplongue et l'infection, est réalisée par Benjamin Rocher. La seconde, qui montre les personnages principaux tentés de survivre aux zombies, est mise en scène par Thierry Poirot. Troisième originalité, la distribution du film. Pas de sortie nationale. La projection de Goal of the Dead est programmée, d'abord à Paris, pour un petit nombre de séances, puis dans quelques salles de province. C'est davantage une tournée, en fait. Car l'équipe du film suit à chaque fois et la mi-temps n'a rien à envier côté ambiance à celle des matchs de foot. Ces projections ont été rares, mais elles ont fait du film un véritable événement que les spectateurs attendaient avec impatience. Si je n'ai pas pu y assister, j'ai en revanche, comme je l'annonçais au début de l'émission, eu l'occasion de discuter avec plusieurs membres de l'équipe de Goal of the Dead. Le premier à avoir accepté de répondre à mes questions a été Nicolas Peufaï, scénariste du film. Coming for so long. He thought that he was king. He thought that he was strong. Bonjour Nicolas Peufaï, merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview et bienvenue sur Radio Sainte-Afrique.
Je vous en prie et merci de m'accueillir.
Bah de rien, merci à vous. Nous sommes donc là aujourd'hui pour parler du film Goal of the Dead, dont vous avez écrit le scénario, auquel cette émission est consacrée, et qui rentre dans la catégorie du film de genre. Mais dans votre filmographie, les films de genre comme Goal of the Dead ou La Horde côtoient ce que l'on appelle communément des films d'auteur comme Un prophète. Et en 2011, il me semble que lors d'une rencontre sur le thème du film de genre notamment, et de son écriture, vous avez déclaré « Pour moi, il n'existe pas de différence entre un film de genre et d'auteur ». Et cette phrase m'a beaucoup intéressée et j'aurais aimé que vous nous en disiez un petit peu plus.
Je pense que c'est une classification un petit peu théorique et finalement qui ne correspond pas à grand-chose d'un point de vue artistique, puisque je pars du principe assez simple qu'il me semble qu'un film d'auteur, c'est un film avec un point de vue. Donc que ce soit des intentions de mise en scène affirmées, une personnalité en fait. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse, par exemple, c'est un film d'auteur. C'est par définition, c'est quand on ressent l'âme de son créateur qu'on peut qualifier un film d'auteur. Sinon, je dirais, on peut parler peut-être de produits plus génériques ou de produits. Voilà. Donc, une œuvre avec de la personnalité, pour moi, est un film d'auteur. Et nombre d'auteurs consacrés, en plus par le cinéma, ont démarré dans le film de genre. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, un peu flou, un peu pratique, voire un peu agaçant, parce que ça crée des chapelles et des clans dans une industrie qui ferait bien de se métisser un peu de temps en temps. Voilà.
Mais justement, vous avez aussi bien travaillé sur des scénarios de films que de séries, un genre qui est souvent bien moins considéré que le cinéma. Là aussi, est-ce que vous vous affranchissez des frontières arbitraires qui sont habituellement posées ?
En l'occurrence, puisque la série sur laquelle j'ai travaillé, c'était Les Revenants, j'ai travaillé 2 ans dessus, de 2006 à 2008, si mes souvenirs sont bons. Et ça a d'ailleurs enclenché un peu plus tard la création de Gaulle. Mais en termes de narration et en termes de d'histoire, c'est à peu près similaire sur une série fantastique. C'est-à-dire qu'à un moment, on cherche des atmosphères, on cherche une personnalité, ce qu'on appelle un thème, autour duquel on va greffer, plutôt des personnages vont venir se greffer. Donc de toute façon, c'est assez personnel comme travail. On n'est pas parti sur Les Revenants, par exemple, on parlera de Gaulle plus tard, uniquement du principe que les morts reviennent et c'est tout. On s'est dit, voilà, quels sont les personnages qui pourraient psychologiquement illustrer le mieux ce retour, le fait d'avoir des gens dont on a parfois fait le deuil qui reviennent dans nos vies, et qui sont désirés ou qui ne sont plus désirés. Et à partir de là, on est obligé de rentrer dans l'intime, y compris quand on travaille, qu'on imagine des personnages. Et donc, par essence, on est complètement auteur dans ces moments-là. Parce qu'on n'a pas on est obligé de rentrer un peu en soi et d'aller puiser au fond de soi des choses. Et pas être d'une objectivité totale. D'ailleurs, c'est quand même rarissime, quelle que soit la qualité des films, des séries, que les scénaristes soient complètement distanciés par rapport à ce qu'ils font.
Et le film Goal of the Dead a une construction quand même, un format un petit peu particulier, avec ses demi-temps qui pourraient peut-être faire penser à une série en 2 épisodes, pourquoi pas. C'est aussi un film de genre avec du gore, mais aussi une comédie. C'est assez difficile justement de le définir. Comment est-ce que vous le définiriez ?
Je pense que c'est avant tout une comédie fantastique, c'est un événement purement fantastique qui intervient dans l'histoire. Mais je pense que c'est avant tout, avant d'être un film d'horreur, je pense que c'est une comédie. On peut parler de comédie noire. C'est un peu, je sais pas si c'est un peu inclassable. C'est au confluent de tout ça en fait. Mais je me suis pas tellement posé la question à l'époque où j'avais commencé à réfléchir à Goal of the Dead. Ça change juste qu'à la base, ça devait être une série. On partait sur du 6 ou du 8x52, dans une espèce d'idéalisme absolu, avec 40 personnages. Enfin, c'était beaucoup plus progressif, la montée de tension. Et que la source d'inspiration, à l'époque, en tout cas, c'est que j'avais vu Dead Set, la série anglaise, mini-série pour le coup, et que j'avais adoré. Et que pour moi c'est de la comédie noire d'être cette avant tout. Les zombies dans ce cas-là ne sont comme souvent qu'un prétexte à raconter une histoire, on va dire post-apocalyptique ou à montrer comment des gens plus ou moins adaptés à la situation présente vont se débrouiller quoi. Donc c'était des candidats de Big Brother sur Dead Set. Moi mon idée à la base sur Goal c'était aussi de mettre des joueurs surprotégés de Ligue 1 dans une situation de débrouillardise totale. Donc c'était les promesses de situations cocasses qui nourrissaient un peu l'écriture.
Et on a souvent tendance à considérer que l'humour ou le fantastique ne sont pas des genres sérieux, si elle a distingué des films d'auteur justement. Est-ce qu'on peut écrire des choses sérieuses justement avec de l'humour et dans un domaine fantastique?
Je pense qu'on peut parler de choses très sérieuses. Par exemple, ce que je voulais faire moi sur Gaulle, je voulais pas me moquer, je voulais pas ricaner, je voulais amuser, mais avec des histoires de confrontation entre. Enfin, je traitais plein de choses à l'époque. Moi, je vivais dans l'Aveyron. Enfin, j'avais quitté Paris pour quelques années en fait. Et je voulais parler aussi de ce rapport-là, ce rapport entre Paris et, je vais dire, la province, alors qu'on devrait dire les provinces. Je voulais parler de ce mélange de complexe de supériorité, d'infériorité qu'on croise parfois, de ce rapport quand même très compliqué en France, où les choses passent souvent par la capitale, beaucoup trop d'ailleurs. Je voulais raconter ça, je voulais raconter la confrontation entre des amateurs et des professionnels. Je voulais voir en fait au final ce qui pouvait rapprocher des gens aussi différents. Quoi. Des gens que tout oppose, qui ne se fréquenteraient absolument jamais dans un cadre classique. C'est ça la grande force du fantastique et parfois de la comédie aussi, c'est que ça nous permet des passerelles où on doit être juste et sincère sur ce qu'on raconte, mais on peut prendre des détours, on peut aller un peu plus, pousser le bouchon un peu plus loin. On a moins une obligation de naturalisme, en fait. Donc oui, on peut être sérieux, c'est-à-dire que voilà, si on a envie de raconter des choses qui sont des choses qu'on peut ressentir en lisant la presse tous les jours et tout, mais par le prisme et le biais du divertissement. Alors évidemment, c'était plus poussé à l'époque où Gaulle devait être une série, il y avait beaucoup d'intrigues parallèles, etc. Le fait que ça a été resserré après sur de longs métrages, ça oblige à être plus concis.
Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été finalement une série, mais ce long métrage avec sa construction bien particulière?
C'était en plusieurs temps, mais ce qui a fait déjà, c'est qu'on n'avait jamais réussi à convaincre la chaîne, en l'occurrence Canal+, à l'époque, d'en faire une série. Par contre, ils nous ont suivis, le département cinéma nous a suivis. Et après, ça a été vraiment une réflexion... Ça a été un raccourcissement progressif. Sachant, faut savoir quand même que à la base, j'ai créé la Bible et inventé les personnages, puis on a essayé d'avoir une vraie écriture collégiale en fait, avec un pool d'auteurs qui allait réfléchir, etc. On a commencé à travailler vraiment sans avoir aucune certitude quant au format. Quand on a su que ça passerait pas en série, donc là on était en 2009-2010. On a essayé de réfléchir. On sentait que ce serait très difficile de ne faire qu'un seul long métrage par rapport à tout le travail qu'on avait fait avant et tous les personnages. Donc on a coupé, sacrifié, exterminé beaucoup de nos personnages. Et puis l'idée est venue, c'était une idée, je pense, de Raphaël Rocher, de le producteur de Capture the Flag, qui est la société de production. Cette idée, du coup, de réorienter ça vraiment sur... presque formellement, de façon iconique, sur le foot. Et on s'est dit, avec les réalisateurs et les scénaristes, pourquoi on n'essaierait pas de faire deux films qui symboliseraient en gros les demi-temps d'un match, quoi. Racontons un match de foot, en tout cas dans sa dramaturgie, quoi, le rapprocher le plus de ça. Et du coup, après, donc, est venue aussi très vite l'idée de le sortir en VOD et d'avoir des sorties cinéma spéciales, c'est-à-dire des séances spéciales un peu comme peuvent l'être les séances du Rocky Horror Picture Show qui s'apparentent parfois plus à une tournée d'un groupe de rock qu'à une distribution de salle classique, c'est-à-dire un soir par semaine à Paris, après ça a tourné un peu partout en France, avec des mi-temps, une mi-temps entre les deux films où il y aurait des petits événements, des petites manifestations, etc. Créer quelque chose de vraiment festif. En fait, trouver une façon d'exploiter un film qui, on l'a senti, aurait été pas forcément très bien distribué. Quoi. Parce que là, pour le coup, au cinéma, les distributeurs sont très frileux quant au fait de distribuer des films d'horreur dans leur salle.
Et il me semble que le film a un certain lien avec l'Aveyron dans son écriture, dans son tournage.
Pas dans le tournage. Ça s'est tourné en proche région parisienne et un peu plus loin, pas trop loin de Paris. Moi, je l'avais écrit, ça se passait dans l'Aveyron, en fait, parce que j'y vivais à l'époque. Donc, Caplong était le nom inspiré d'un village que je connaissais. Sur le Lévézou, moi, j'habitais pas loin de Saint-Afrique, d'ailleurs, à 20 km. Donc voilà, donc comme je vivais là-bas et que ça a été la source d'inspiration pour définir la région où devait se passer le film à la base. En plus, j'avais besoin de paysages vallonnés et la diversité des paysages de l'Aveyron permettait d'imaginer plein de situations, quoi, puisque c'était beaucoup plus long. Les personnages fuyaient dans un monde dévasté pendant plusieurs jours, quoi. Mais c'est venu comme ça, mais il a été imaginé, oui, il a été créé un peu au-dessus du Tarn. Ouais.
Le film a été considéré comme un Shaun of the Dead à la française. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une vraie référence ou un hasard ?
C'est un hasard. Après, il l'est devenu parce que c'était une comédie avec une figure proche du zombie. Enfin, c'est un mélange de la comédie anglaise et de 28 jours plus tard au niveau de la menace fantastique, comme on appelle ça. Non, c'est pas du tout volontaire. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de volonté de filiation. Mais c'est un truc, c'est toujours pareil. Quand on écrit, en fait, on pense pas à ces choses-là. Par contre, on voit des choses, on revoit des choses parfois. Parfois, on voit rien du tout parce que trop voir de films, quand on crée, c'est pas très bon non plus. Parce qu'on devient trop sous influence. Après, la référence me fait plaisir. Hein. Je trouve ça très flatteur. Je pense qu'on s'en approche, mais je pense que Shaun of the Dead est quand même une grosse référence. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois. Donc non, c'est absolument pas conscient. La vraie source d'inspiration était Dead Set, et après on s'en est éloigné au niveau de l'histoire. Et même formellement, après, c'était une autre réflexion de la part des réalisateurs. Mais quand on couche des idées sur le papier, quand on raconte une histoire, on est tellement immergé dans ces personnages et tout qu'on a basculé dans un autre monde. Donc les références plus ou moins conscientes viennent se greffer d'elles-mêmes, quoi. Je dirais que si on n'a pas digéré ces références, il vaut mieux ne pas écrire, parce qu'on va manquer, on va en arriver à faire un hommage à des réalisateurs ou à des films qu'on aime bien. Ça va manquer de personnalité. Et c'est souvent un écueil naturel, d'ailleurs, de n'importe qui commence, c'est d'être un peu écrasé par ces références cinématographiques jusqu'à ce que petit à petit, il arrive à les digérer et à les oublier. Mais elles reviennent nous aider assez souvent, ça c'est sûr.
Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, ceux qui n'auraient pas encore vu justement le film, pour les inciter à aller le voir ?
Non, je pense que il faut qu'ils le voient, évidemment. Il faut qu'ils le voient parce qu'on a quand même besoin, pour les amateurs de genre, en tout cas, de soutien. On a besoin d'avoir un public, parce que c'est quand même, ça reste très compliqué de monter ces films-là. Et que on ne pourra pas systématiquement passer 4 ans à perdre 20 kilos et avoir des cheveux blancs pour essayer de faire aboutir ces projets. On a besoin de prouver qu'il y a, nous on le sait, mais à certaines personnes, qu'il y a un vrai public. À choper en VOD, de toute façon, ça va être l'avenir, à mon avis, de ce genre de projet. Je ne suis pas persuadé beaucoup finiront dans les salles, et que voilà, et que nous on a organisé des tournées dans toute la France. Le film est venu aux gens, et évidemment on n'a pas pu aller partout, mais continuons cet échange, quoi, parce que pour le coup c'est vraiment le genre de film qui dépend très très fort de son public, quoi. Et on doit par contre constamment dire que oui, il y a un public pour ce film-là, oui, il y a des gens qui ont envie de le voir. Malheureusement, c'est souvent distribué dans 3 villes et c'est tout. Donc, l'union fait la force, quoi, sur une équipe.
Vous êtes sur Radio Saint-Afrique pour une heure fantastique consacrée à ce charmant petit ovni du cinéma français, à ce mélange d'humour, de gore et de cette pincée indéfinissable de réflexion, d'émotion, de grossièreté et d'absurdité, Goal of the Dead. Ou le film qui montre les fesses d'Alban Lenoir qui fait crier Ahmed Silla comme une fille et dans lequel on peut voir Bruno Salomon tabasser un zombie à coups de chaussures à crampons.
Ah ouais?
C'est à la fois drôle et violent à l'image du film. Vous l'aurez compris, je pense, je n'ai aucune objectivité et je ne cherche pas à en avoir. Personnellement, j'ai surkiffé Goal of the Dead. Bon, j'aime les films de zombies et j'ai un fort penchant pour l'humour décalé. C'était donc déjà bien parti pour me plaire. À ce cocktail qui a déjà fait ses preuves avec Shaun of the Dead, s'ajoute par moments une certaine gravité, une profondeur qui peut passer inaperçue si l'on s'arrête au côté rigolo-gore du truc. C'est peut-être parce que je suis prof de philo, mais j'apprécie qu'un film me questionne, m'étonne. J'aime les ambiguïtés, l'ambivalence. Mais je suis aussi fan de science-fiction et d'humour, et j'aime que le questionnement passe par des biais inattendus et distrayants. Comme Nicolas Peufaï l'a dit dans son interview, on peut décrire des choses sérieuses et drôles. Ça n'est pas du tout antinomique. Et on peut même le faire avec très peu de moyens, comme Raphaël Rocher, le producteur du film, nous l'a expliqué en interview. Bonjour Raphaël Rocher, merci d'avoir accepté cette interview. Bienvenue au micro de Radio Saint-Afrique.
Merci de m'accueillir.
De rien. Cette émission, comme vous le savez, est consacrée à Goal of the Dead, film dont vous êtes le producteur. J'imagine, pour le comparer à un autre film de zombies, que son budget n'avait rien à voir avec celui de World War Z. Comment vous en êtes-vous sorti avec des moyens beaucoup plus modestes, notamment concernant les effets spéciaux ou les scènes de hordes zombies qui nécessitaient de nombreux figurants ?
Absolument. Bah déjà, on s'en est sorti parce qu'on n'est pas du tout sur la même promesse de film que des films américains extrêmement spectaculaires comme World War Z ou L'Armée des Morts, ou, tout ça. Nous, du coup, comme on avait, je pense, l'équivalent du budget sandwich de World War Z pour faire deux films, on s'est quand même axé sur moins de personnages, une histoire plutôt sur la comédie. À concentrer le spectaculaire sur une scène, c'est-à-dire le premier match de foot qui est celui au cours duquel l'enragement et les zombies, les enragés arrivent, ça c'est dans le premier film, et le match retour qui est à la fin du deuxième film où nos héros vont essayer de se sauver et de sauver leur peau surtout lors d'un dernier match de foot contre les enragés. Voilà. Ensuite, pour le faire, donc c'est concentrer les moyens sur des scènes très particulières. Là où les films américains, et c'est super, moi j'adore, ont des scènes d'action tous les quarts d'heure, bah nous on a une scène d'action par film. Et qu'ensuite, bah, il faut être malin, quoi. C'est-à-dire on a pas énormément de figurants, mais du coup numériquement on les multiplie. Dans la scène d'action du deuxième film, la moitié des zombies sont en numérique. Mmh. Et surtout, on est beaucoup plus concentré sur nos personnages que sur le spectaculaire.
J'aurais aimé aussi aborder la question de la distribution du film qui est plutôt ouais. Inhabituelle en fait.
Tout à fait. En fait, donc nous, dès le début de l'idée, on sait qu'on va faire des films français, en français, qui parlent français, et qui mélangent comédie et horreur et fantastique. Ce sont des films qui ont un public en salle très limité, parce que on peut se mettre à la place du public qui, entre World War Z et Goal of the Dead, se dit qu'il va plutôt aller voir World War Z au cinéma. Donc ce sont des films qui ont un public, mais plutôt à la maison, plutôt en vidéo, qu'en salle. Et que du coup, pour que la sortie de ces films reste une fête, et pas un truc un peu tristoun de sortir en salle ou à peine identifié ou personne n'y va parce que personne n'est au courant, parce qu'il n'y a pas assez de copies et tout. Nous, on a choisi de faire une espèce de prise de judo à cet état des lieux en limitant la sortie, c'est-à-dire que quand il est sorti en salle, il y avait une seule séance par semaine à Paris, pendant 8 semaines, pour ensuite partir en province et faire une quinzaine de projections en province. Toutes les projections dans les grandes villes de province ou à Paris étaient accompagnées par le casting et par les réalisateurs des films qui étaient là pour expliquer pourquoi il y a deux films, pour transformer ces projections en fête. Ce qui a extrêmement bien marché, c'est-à-dire que tout était quasiment complet tout le temps, parce que l'idée c'était de vraiment faire une fête autour de cette sortie limitée, un peu comme une immense tournée, un peu comme si c'était un spectacle en fait, comme si c'était du spectacle vivant. Donc on a pris notre caravane, notre dire, qui on a fait le tour des salles de parisiennes et de province qui avaient envie de nous accueillir. Et ensuite, pour sortir en vidéo, comme tous les films, 4 mois plus tard. Quoi.
Voilà. Donc la VOD, le DVD ont bien marché également ?
Absolument, ouais, carrément. Carrément. Proportionnellement à ce genre de film, etc. La vidéo et la VOD, bien sûr. En plus, on est sorti juste avant la Coupe du Monde. C'était assez rigolo pour de proposer du foot et des enragés juste avant la Coupe du Monde.
Le timing était plutôt bon, oui.
Le timing était très rigolo, était festif aussi.
Et je crois savoir aussi que Goal of the Dead marche assez bien à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus hein?
Ouais, alors ça c'est un truc tout à fait structurel sur le cinéma de genre français qui mobilise l'intérêt de pas mal de pays, de l'Europe, de l'Asie, et de l'Amérique du Nord, où nos films s'exportent pas mal, où tout comme en France, c'est-à-dire que c'est pas forcément des films qui sortent au cinéma, mais c'est des films qui ont des vraies carrières vidéo. Voilà, parce que c'est toujours cool de se retrouver avec des potes un samedi soir à regarder des films drôles et qui font un peu peur en même temps, et que ça a l'air d'être vrai dans le monde entier.
Et par exemple, c'est sorti dans quel pays ?
C'est sorti en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Corée, au Japon. Grosse sortie au Japon. Enfin, grosse sortie, proportionnellement, hein, mais grosse sortie au Japon. Aux États-Unis, c'est pas encore fait. Au Canada, c'est sorti. Et dans pas mal de pays d'Europe de l'Est aussi.
La distribution du film à l'étranger a d'ailleurs donné lieu à pas mal d'affiches et de jaquettes de DVD, dont les images ont tourné sur Twitter au moment de leur sortie, relayées par Luminor notamment. J'ai beaucoup aimé voir Alban Lenoir shooter dans une tête de zombie au-dessus d'un titre écrit en japonais. Et la bande-annonce en allemand était bien sympathique elle aussi. J'aimerais voir ces versions juste pour le plaisir d'écouter le doublage en coréen ou en polonais. Finalement, il n'est pas étonnant que Goal of the Dead ait rencontré son public, en France et partout ailleurs. Avant d'être un film sur le foot, et même avant d'être un film de zombies, c'est avant tout une comédie, dont les ressorts sont essentiellement humains, comme nous l'a expliqué Thierry Poirot, le réalisateur de la seconde mi-temps. Bonjour Thierry Poirot, et merci d'avoir accepté cette interview au micro de Radio Sainte-Afrique, et bienvenue dans l'heure fantastique.
Bonjour.
Cette émission est consacrée au film Goal of the Dead, que vous avez co-réalisé avec Benjamin Rocher. J'aurais aimé commencer par évoquer cette construction du film en deux parties, deux mi-temps et deux réalisateurs.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée est venue parce que au départ, ce projet était c'était une série. En fait, c'était voué être une série pour la télé en plusieurs épisodes. Mmh. Donc, ça a commencé à être écrit il y a bien longtemps sous forme de série. Par là-dessus, par les aléas de la production, ils ont été réduire un petit peu. C'est devenu plutôt une mini-série. Et de ça est devenu un film en deux parties, en fait. Moi, je suis arrivé sur le film, et Benjamin aussi, quand les producteurs ont décidé de faire un film en deux parties, en reprenant aussi l'idée, ce qu'on appelle les Greenhouse, c'était les films, les doubles programmes des années 70, des films d'horreur, sur cette idée un peu qu'avait repris Tarantino et Rodriguez, l'idée de revenir à deux formats assez ludiques, assez drôles, de deux films séparés avec deux visions de la même histoire. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était une série, c'est pour ça qu'on a réduit. Et la forme même du film et des caractères et le côté un peu choral du film et de l'écriture vient du départ, en fait.
D'accord. Et comment est-ce que ça s'est déroulé au niveau du tournage ? Est-ce que vous avez travaillé ensemble avec Benjamin Rocher ou totalement séparément ?
C'est-à-dire qu'on a travaillé à l'origine sur l'écriture. Après, on a réécrit, parce qu'à un certain moment, ça avait été réécrit sous forme de série. Après, il y a une scénariste, Marie Garel, qui est revenue, qui est revenue dessus et refaire vraiment une construction plus pour deux films. Donc, on a travaillé à cet endroit-là avec Benjamin pour resserrer toute l'histoire, les personnages, remettre des enjeux personnels, les familles, vraiment sur l'écriture. De l'écriture, après, on a fait le casting ensemble pour choisir les personnages selon nos envies. Et après, on avait les mêmes techniciens. Donc, par la chose, on a obligé de travailler, on a été travailler ensemble. Mais après, sur le plateau, on était vraiment séparés en deux. C'est qu'on avait chacun son plateau. Mmh. Et après, chacun était libre un peu de faire ce qu'il voulait. C'était le parti pris de départ d'avoir des films un peu différents. Même si le film était un peu différent, ça ne tirait pas les producteurs. Il fallait une certaine cohérence, mais il y a le ton un peu différent peut-être d'un film à l'autre. Mais ça, c'était assez voulu en fait. C'était assez libre. Hein. Et surtout, le sujet se portait bien. C'est un sujet assez léger. Ça nous a permis de travailler en deux parties, en fait. Mais... Et on a vraiment scindé, vraiment en deux parties, deux plateaux. Et on tournait pratiquement, enfin, c'était avec les mêmes techniciens, mais il y avait un jour, des fois c'est une semaine, Benjamin travaillait. Deux, trois jours, c'était moi ou une semaine. Et vice-versa, en deux mois. Ce qui était assez inhabituel pour les techniciens, surtout.
Et alors, Goal of the Dead, c'est un film de zombies, mais c'est aussi une comédie. Dans votre réalisation, comment est-ce que vous avez cherché à concilier ces deux aspects?
Eh bien, moi déjà, c'était... mon précédent film, ce qu'on appelle, c'est pas vraiment un film de zombies, c'est un film de zombies, c'est une comédie d'horreur en fait. Donc c'était avant tout, je l'ai surtout pris comme une comédie de base. Donc l'épisode 2 est vraiment, même si des gore et d'action, c'est vraiment une comédie donc familiale. Quand je dis familiale, c'est avec des enjeux familiales, avec le personnage principal qui doit retrouver sa fille. C'est presque de la comédie romantique. Et après, évidemment, c'est surgonflé avec le côté fantastique et horreur. Du coup, ce qui permet, en fait, le zombie, ben, tout le monde connaît, hein, c'est le fantastique lui-même, ça permet de mettre simplement les personnages dans un contexte un peu extraordinaire et de pouvoir pousser à la limite de la caricature un peu les situations, une situation beaucoup plus comique. Ce qui est assez drôle, mais ce qui avait été fait précédemment dans des autres films comme Zombieland ou Shadow of the Dead.
Alors, justement, c'était l'objet de ma prochaine question, puisque Goal of the Dead a beaucoup été comparé à Shaun of the Dead de Simon Pegg. Est-ce que ça faisait partie de vos sources d'inspiration, de vos références?
Oui, enfin, volontairement non, parce que chacun a envie de faire un peu ses armes, mais après oui, parce que le sujet lui-même, c'était sur des films de zombies, des comédies, donc les dernières qui étaient sorties, et notamment les meilleures, hein, c'était Zombieland et Shaun of the Dead. Après, Shaun of the Dead était évidemment, moi personnellement, plus une référence de ça, que c'était la première fois qu'une comédie, c'est un film d'horreur, mais c'était avant tout une comédie assez bien construite, en fait, avec un personnage qui s'est retrouvé sa femme, et moi j'avais vraiment une envie de comédie, en fait. Après, en peut-être moins Shaun of the Dead, où ils ont tiré plus dans le sens, ils ont vraiment, le zombie était bien traité, c'est vrai que nous, des fois, ils les traitaient un peu de façon un peu plus légère, enfin, j'ai pris ça avec beaucoup de sérieux, mais un peu plus de façon surréaliste par moment.
Et Goal of the Dead a cette particularité de rajouter le foot à l'intrigue. Comment est-ce que vous avez justement pris en compte ce thème supplémentaire?
On a pris Benjamin comme moi. Alors le truc c'est drôle, c'est que ni l'un ni l'autre ne sommes ni fans. Je n'ai rien contre le foot, hein. Je ne suis pas fan, je ne le regarde pas. J'avais participé à très peu, j'ai vu très peu de matchs, rien. Donc c'était un univers qui nous en était très, très éloigné. Donc on a découvert avec le film, en se faisant aider par des gens comme Franck Anest, qui est le pilier de SoFoot, qui nous a beaucoup aidé sur ce film. Après, ce qui nous intéressait, c'est plutôt le fait que ce soit une équipe à la base, des joueurs, des équipes jeunes, le foot étant évidemment l'un des sports les plus populaires, notamment le plus financé. C'est-à-dire que c'est des gens, souvent des jeunes, qui sont un peu inadaptés, qui sont très jeunes, qui sont pris un peu comme ça dans un peu de partout, qu'on entoure comme des cocons, comme un peu des mini-stars du cinéma. Et ce qui nous intéressait, c'était ces personnages un peu hors du commun qu'on allait mettre justement face à des zombies. Du coup, c'était tout le caractère comique en fait qui venait avec le foot. Le foot en lui-même n'était pas c'était le sport. C'était le fait que c'est un sport et notamment un sport qui est ce qu'on appelle financé. C'est des sports où on fait des stars, où il y a beaucoup d'argent, où il y a tous ces enjeux en fait qui fait une forme assez jouissive en fait de comédie.
Terriens, terriennes et autres formes de vie, vous êtes sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique, ce mois-ci consacrée au film Goal of the Dead. Goal of the Dead, qui a ses scénaristes, son producteur, ses réalisateurs,
mais aussi ses fans. Comme à chaque émission, nous recevons donc un ou une fan de science-fiction qui nous emmène dans son univers. C'est parti pour l'interview du fan.
Bonjour Karine et merci d'avoir répondu présente pour cette interview du fan. Peux-tu te présenter rapidement aux auditeurs ?
Bonjour Lucille, merci de ton invitation. Je m'appelle Karine, donc j'ai 37 ans et je suis depuis quelques mois fidèle auditrice de L'Heure Fantastique.
Et tu es une fan de science-fiction, à ce que je crois, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce que tu es entrée dans cet univers ? Quelle place est-ce qu'il tient dans ta vie ?
Alors en fait, au début, j'aurais répondu que j'en étais pas vraiment une. J'ai pas véritablement de culture SF. J'ose à peine dire que je n'ai jamais vu Star Wars, parce qu'on me regarde assez bizarrement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je baigne dans un univers de science-fiction depuis que je suis gamine. Je regardais les épisodes de Star Trek à papa quand j'étais petite, ou la première série V, parce qu'il y avait des lézards qui tiraient sur leur peau et que ça me faisait. Plus tard, j'étais accro à X-Files, mais vraiment accro, c'est-à-dire que j'ai même vu les films au cinéma et qu'on n'est pas très nombreux à l'avoir fait. Voilà, et encore après, voilà, j'ai plongé dans Lost, j'ai plongé dans Fringe, donc côté série, j'étais quand même assez branchée science-fiction. Et puis même au cinéma, il y a des films qui m'ont marqué quand j'étais petite. C'était beaucoup autour des extraterrestres, donc en compte du troisième type par exemple. J'ai adoré ce film, je l'ai regardé plein de fois. Abyss, Retour vers le futur, enfin voilà, il y avait des films comme ça qui ont baigné mon enfance, mon adolescence, sans que je me rende vraiment compte que tout ça c'était de la science-fiction.
Et aujourd'hui, et parmi peut-être des références françaises également ?
Pas vraiment en fait, je rentre doucement dans la culture science-fiction, j'essaie d'y rentrer par tous les côtés, c'est-à-dire que... je me mets un peu à la BD, je me mets un peu à la littérature. J'étais par exemple assez marquée par La Route de Cormac McCarthy il y a quelques années, mais vraiment marquée par ce livre. Je rentre doucement, je m'y remets doucement en fait.
Hérocorp, le visiteur du futur, non ?
Oui, Hérocorp, le visiteur du futur, mais enfin tout ça c'est plus c'est un univers que j'ai découvert plutôt par le côté humour finalement, et je me rends compte que ma culture SF elle est plutôt second degré que premier degré. Peut-être que j'ai un peu plus de mal quand c'est trop premier degré et qu'il faut se confronter à des univers parfois un peu anxiogènes, quoi.
Alors justement, en parlant second degré, L'Heure Fantastique a pour thème ce mois-ci le film Goal of the Dead, film que tu as vu, j'ai mes sources, et il me semble que tu as apprécié. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans ce film ?
Alors d'abord, c'était mon premier film de zombie. Donc sur le papier, foot, zombie, il y avait quand même un peu de probabilité que j'aille le voir, que je le regarde et que je l'aime encore moins. J'avais des appréhensions et elles se sont envolées assez rapidement en fait, parce que le traitement par l'humour encore une fois m'a convenu, et puis un humour bien dosé, c'est pas gratuitement potache. Le film n'est pas tombé dans des pièges de gags un peu lourds, ce qui aurait pu être le cas dans un mauvais film de genre, et c'est pas du tout l'impression que j'ai ressenti. Les personnages sont bien traités, les acteurs sont excellents d'ailleurs, les dialogues aussi. Voilà, on y trouve de l'action, on y trouve de l'humour, et il y a aussi une touche d'émotion et qui m'a pas semblé caricaturale, pas forcée. Voilà, c'est aussi un piège dans lequel ils sont pas tombés. Donc je ne cache pas que à certains moments j'ai fermé les yeux et j'ai dit Burk, parce qu'il y a un certain abus de lait de coco dans ce film, mais j'ai vraiment passé un bon moment et ça m'a même donné envie d'aller un petit peu plus loin, et j'ai poursuivi en regardant Shaun of the Dead, qui m'a aussi beaucoup fait rire. Dans un style un peu différent, mais qui m'a donné encore plus envie d'aller tâter du zombie.
Et alors, justement, question zombie, en cas d'épidémie de zombies, quelle serait ta stratégie de survie ?
Alors, d'abord, de courir le plus loin possible, loin d'eux. J'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt du genre lent et pas très vigoureux. Donc première chose que je fais, c'est que je cours loin. Et je pense qu'il faut que je garde sous le coude un objet pour leur fracasser le crâne, ou ce qui leur en reste. Et puis, à mon avis, il faut un plan dans ces cas-là. Donc voilà, j'aurai un plan. Je pense que j'irai boire des bières au Winchester.
Okay, John, it's time at the bar. You see him smiling through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky.
I can't find this one, just get the fuses!
Un grand merci à Karine qui a très bien résumé les choses. Et je suis d'accord pour le plan. Retrouvons-nous au Winchester, on boira des bières en attendant que ça se calme. Je crains toutefois qu'en cas de réelle épidémie de zombies, on soit très rapidement à court de cacahuètes. Voici donc venu le temps de la dernière rubrique de cette émission, celle des conseils. Quelle stratégie adopter face à une horde de morts-vivants enragés ? Ne bougez pas, tous les conseils, toutes les astuces sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Et comme j'avais des pros sous la main, j'en ai profité pour leur poser la question. Et vous, que feriez-vous en cas d'épidémie de zombies ?
Oh, là, comme ça, là, il me faudrait une meilleure zombie. Bah, ça dépend des zombies, en fait. Il y a différentes... Nous, c'était un zombie crachat, donc ça dépend du mode de contamination, je dirais. Il y a le zombie mâchoire hachée, donc nous, c'était sur le crachoir, donc pour se protéger, on était plus proche du parapluie que de la combinaison de plongée. Alors là, je ne sais pas. Là, vous me prenez tout à la... Qu'est-ce que je pourrais inventer comme connerie ? Je ne sais pas encore. Là, je ne sais pas. Là, d'un coup, là, je n'étais pas prévenu.
Désolé. Vous n'avez pas une petite idée de ce que vous feriez, vous, au cas où il y ait une épidémie de zombies, pour vous en sortir ?
Pour m'en sortir, courir vite, épidémie de zombies Bah, je prends un peu si, je me fabriquerai moi un exosquelette, ça c'est sûr. Déjà de base, hein, une bonne armure assez solide. Déjà pour survivre, parce que dans les films de zombies, ils sont toujours en t-shirt ou en pantalon, ou alors qu'en fait, il suffirait juste de se mettre une armure. Le zombie, tant de travaillant qu'avec ses dents, ça l'empêcherait énormément de l'enlever. Après, il y a comme dans World War Z, effectivement, arracher les dents des zombies, ce qui est très pratique, parce qu'après, ils ont les gencives toutes molles. Donc, un bon dentiste comme copain, c'est pratique. Un bon serrurier qui soit une bonne armure. Deuxième point. Troisième point, grenade. C'est toujours pratique.
Et efficace, effectivement.
Et efficace, voilà. Mais j'avoue que l'armure, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas plus de... Voilà, un bon costume de Batman. Je suis sûr que ça fait l'affaire.
Oh putain, c'est la merde.
Déjà, c'est à mon avis, ne pas se cloîtrer. J'essaye immédiatement là de repenser au bouquin de ce garçon qui a écrit World War Z, en fait, Max Brooks, je crois. Je m'imagine bien me cloîtrer chez moi pendant des jours et des jours, ne plus avoir de nourriture, commencer à mourir de faim, ne pas avoir le choix et me transformer moi-même symboliquement en zombie ou en enragé, puisque les Mongols sont des enragés, et attendre l'extrême limite pour devenir moi-même agressif. Je pense qu'il faut attendre la folie pour pouvoir s'en sortir. Mais fondamentalement, je pense sincèrement qu'il n'y a que les psychopathes qui s'en sortent dans ces moments-là. Ça devient un vrai atout en période de fin du monde d'être un psychopathe. We are out to kill Wednesday.
Alors moi, s'il y avait une épidémie de zombies, je pense que le
L'unique moyen, c'est quand même l'île déserte. Hein. Je pense que c'est le seul et unique moyen. Moi, je prendrais mes enfants, je les mettrais sur un radeau. Et on irait à l'île de Dieu.
Et pour organiser la survie ensuite ?
Ah ben ensuite, on va pêcher. Ensuite, on va pêcher, on se barricade, on pêche, et puis... sur une île, on les voit venir de loin. Donc on attend d'essayer de les couler. We are out to kill Wednesday. We're gonna tear the sucker down. Gonna tear the sucker down. We are out to kill Wednesday. We're gonna bring him to the ground. Gonna tear the sucker down. He's had it coming. Coming for so long. He thought that he was king. He thought that he was strong. Now he'll do anything for next year's pot of gold. Bitterness has turned the boy into a man-sized gold. Island teeth are guaranteed to entertain. But we want more. It's time to go for the brain. We pierced the moonlit sky, shrieking all the way. The elders have to creep, there'll be a hell to pay. Wanted him, got him begging on his knees. So go and turn his sheepish grin into a frown of misery. 20 minutes after sunset, it's a chance to get it right. Prove to me it was all a lie. Kiss your dreams tonight.
Et voilà, à vous de choisir le conseil que vous jugerez le plus judicieux, de l'armure, du psychopathe ou de la pêche, quitte à cumuler les trois pour augmenter vos chances de survie. Et cette émission touche à présent à sa fin. Merci à vous d'avoir passé cette heure fantastique en ma compagnie. On se retrouve en février pour une spéciale Mortus Corporatus, la web-série qui tue. En attendant, restez prudents, car vous le savez bien, ils sont parmi nous. Thank you.
toujours.